Embellir votre extérieur directement du producteur. Serre de Lidl.com.
Au réseau Cogeco Média, voici le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin.
Comment évaluer un jeune joueur ou une jeune joueuse de hockey? Bien sûr, il y a des éléments très tangibles qu'on peut mesurer, la vitesse sur patin, la force du lancer, les habiletés physiques aussi avec différents tests. Mais ce qu'on appelle l'intelligence du jeu, le QI hockey, ça reste quand même une décision des coachs, des entraîneurs, des évaluateurs de talent qui se fie un peu à leur pif, il faut le dire. Ben voilà qu'il y a un universitaire de McGill qui dit « Hey, on va changer ça, on va y aller de manière scientifique pour évaluer le QI hockey des jeunes joueurs. » Je vais en parler avec l'auteur de l'étude. Il s'appelle Daniel Fortin et Guichard et il est professeur au département d'éducation physique de l'Université McGill. Mais d'abord, les nouvelles avec Valérie. Alors Valérie, la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec dit qu'elle commence à être usée par les pannes successives de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Oui, et la SAAC affirme pour sa part que cette fois, cette panne, ce sont des problèmes avec les serveurs de l'entreprise Microsoft qui sont en cause et elle ignore à quel moment ce sera réglé. Pour le président directeur général Yann Samiucci de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, la SAAC devra rapidement trouver des solutions pour les concessionnaires automobiles, parce que ce sont tout de même 2500 transactions quotidiennes qui devront être reportées.
Il y a ce moyen de trouver un moyen de faire ça plus facilement, temporairement. Est-ce qu'on pourrait recevoir des formulaires à TAC ou des transits pour permettre à notre clientèle de partir avec les véhicules dans une forme PDF ou autre?
Et toujours pas de nouveau, hein? Sur le développement, on attend des nouvelles pour demain. Il y a des gens qui ont des rendez-vous demain, puis là, ils savent pas si les rendez-vous pourront ou pas avoir lieu. Alors, restez aux affûts, on va suivre ça, bien sûr, sur nos ondes. Les grandes perturbations économiques que provoquent les actions de Donald Trump n'ont pas eu de véritables impacts, du moins pour l'instant, sur les activités du port de Montréal.
Mais la direction du port prévoit cependant que les prochains mois seront probablement plus difficiles. Les détails avec Philippe Bonneville.
Malgré les turbulences économiques, le trafic de marchandises sur les quais du port de Montréal n'a pas diminué en 2024, mais ça pourrait changer à court ou moyen terme, affirme la PDG du port, Julie Gascon.
Nous vivons un bouleversement dans nos relations commerciales internationales.
Les actions de Donald Trump sont si imprévisibles que le port doit se préparer à toute éventualité, même si pour le moment, les revenus et les profits sont en hausse.
Déjà, nous adoptons des mesures pour mieux contrôler nos coûts dans le contexte économique que tous connaissent.
La principale crainte, c'est que les tarifs douaniers du président américain fassent en sorte que le Canada tombe en récession, un scénario qui aurait assurément de grandes conséquences.
C'est un ralentissement de la consommation, mais vous allez voir un ralentissement au niveau des volumes qui transigent par le port.
Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelles, Montréal.
Et Valérie, l'opposition à Québec déplore les choix faits par la Société des alcools du Québec.
Oui, parce que la Société d'État ferme des succursales au cœur de certaines villes et municipalités et centralise les commandes en ligne à Montréal dans une usine automatisée. Le député péquiste Pascal Paradis a interpellé le ministre responsable de la SAQ, Éric Girard, à ce sujet.
Un entrepôt à Montréal qui va prendre toutes les commandes en ligne, même de bouteilles qui sont disponibles en succursale à Rouyn ou à Gaspé. C'est dans l'intérêt des régions, ça. Alors que les employés disent « Hey, nous, on va s'en occuper de ces commandes-là, puis on va garder ça local avec de l'emploi local. » Vous trouvez que c'est conforme à la mission?
En 10 secondes, M. le ministre.
Oui, M. le Président, mais je comprends que le PQ et Québec solidaire sont contre l'automatisation.
Et sur la scène judiciaire, la Sûreté du Québec a arrêté deux hommes en lien avec l'homicide de Marquissa El-Khoury survenu en décembre 2023 à Laval.
Oui, l'homme de 30 ans acquitté du meurtre de motard survenu en Ontario en 2019 avait été abattu en fin de soirée devant une salle de réception. Un véhicule qui avait été retrouvé incendié à Montréal quelques heures plus tard. Deux jeunes hommes seront accusés de meurtre prémédité. Mewel Tesfit Betsou Amlak, 20 ans, a été arrêté à Kitchener en Ontario, tandis que Hamza Hamoud Ali, 23 ans, était au centre de détention de Donnacona.
Merci beaucoup, Valérie.
Bonne soirée,
on se retrouve demain. Bonne soirée.
À Montréal. Parce que vous voulez tout savoir, on fait le point sur l'actualité. Jusqu'à 18h30, vous écoutez le Québec maintenant. Au réseau Cogeco Média. Voici Philippe Quentin.
Il est 18h05, il fait 20 degrés à Montréal. Devrait avoir de la pluie ce soir, 40% de probabilité d'averse. Ça demeurera relativement doux. Demain, nuageux et 13 degrés. Vendredi, par contre, ce sera la moins belle journée de la semaine. Plus frais, là, minimum de 7, maximum de 10, avec 80% de chance de pluie. Mais tout devrait se résorber pour le week-end. Samedi, on annonce une très belle journée. Et encore mieux pour dimanche, avec plein soleil pour la fête des mères. Et puis là, la semaine prochaine. Hey, je regarde les maximums pour la semaine prochaine, là, 23, 25, 25. Bref, le printemps là, semble réellement parmi nous, sauf pour cette petite journée de vendredi qui va être un petit peu moins intéressante. Dans quelques minutes, Mario Langlois sera là. Ensemble, on va parler des séries éliminatoires de la Coupe cette année. Il y a un match qui est très attendu ce soir. Les Panthers de la Floride et les Maple Leafs de Toronto. On sait que ça a brassé pas mal dans le premier match remporté par les Maple Leafs. Alors, beaucoup, beaucoup d'émotions dans cette série et les Stars de Dallas qui vont visiter les Jets de Winnipeg. Ce sera le premier match de leur série. Mais pour l'instant, on va parler du développement des jeunes joueurs et des jeunes joueuses de hockey. Hein, on peut très facilement mesurer certains de leurs atouts physiques avec toutes sortes de tests. Mais quand vient le temps de prendre la mesure de leur ce qu'on appelle l'intelligence hockey, le QI hockey, ben c'est encore beaucoup empirique. Ce sont des jugements subjectifs qui parfois peuvent être biaisés. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de rendre ça plus scientifique? Ben, il y a un professeur au département de kinésiologie et d'éducation physique de l'Université McGill qui croit que oui, on peut certainement avoir une approche scientifique pour mesurer le QI hockey des jeunes joueurs, des jeunes joueuses. Il s'appelle Daniel Fortin-Guichard. Il est l'auteur principal de cette étude qui a été publiée dans le Journal of Sports Sciences. Daniel Fortin-Guichard, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ben, ça me fait plaisir. C'est assez révolutionnaire, votre approche. On s'est toujours fié un petit peu au pif des dépisteurs, des coachs pour mesurer le QI hockey des joueurs.
Oui, exactement. Ce que l'étude dit, en fait, c'est qu'ils sont assez bons, mais qu'on arrive à les aider un peu, là, à préciser un peu la mesure en utilisant des tests un peu plus objectifs. Mais que de base, ils font une bonne job.
OK. Ils font une bonne job, mais comme dans toute chose, la science peut les aider à s'améliorer. C'est quoi les outils que vous avez développés ou auxquels vous songez pour améliorer cette méthode d'évaluation?
Oui. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'il existe vraiment là une pléthore d'outils qui prétendent mesurer ou entraîner ce qu'on appelle les capacités perceptivo-cognitives là, en sport. En langage, en jargon de hockey, c'est vraiment le hockey sense, le hockey IQ. Tous ces outils-là, en fait, on sait pas s'ils reflètent bel et bien les capacités sur glace. Ou si c'est juste des outils qui permettent de mesurer des capacités perceptivo-cognitives hors glace, décontextualisées du hockey. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on en a pris 5 parce que on était limité dans le temps de ce qu'on pouvait mesurer sur chaque joueur. À un moment donné, les joueurs ont d'autres choses à faire. Mais il y en existe pas mal plus que 5. Fait qu'on en a pris 5. Puis ce qu'on a fait, c'est que la raison pour laquelle on a choisi ces 5-là, c'est qu'ils étaient de plus en plus représentatifs du hockey. C'est-à-dire que la moins représentative, c'était vraiment une batterie de tests qui permet de mesurer le QI, on va dire, standard, là, l'intelligence humaine en général, donc des tests neuropsy qu'on appelle. Après ça, l'autre d'après, ben, c'est un petit peu plus contextualisé au sport parce que ça s'appelle le neurotracker, c'est des balles de tennis holographiques qui se promènent dans un environnement 3D. L'autre d'après, c'est ce qu'on appelle l'occlusion temporelle, fait que c'est des séquences vidéo de hockey qui gèlent à un moment clé de l'action, puis l'athlète doit anticiper ce qui s'en vient. Puis pendant que l'athlète visionne ces séquences-là, ben, on a un appareil qui permet de suivre les mouvements oculaires. L'étape d'après, réalité virtuelle, c'est que l'athlète joue au hockey dans un environnement virtuel avec un sensor sur son bâton qui vibre lorsqu'il reçoit des rondelles virtuelles. Puis finalement, la plus représentative, ben, c'est des ce qu'on appelle des small-sided games, là, des parties à effectifs réduits qu'on filme puis qu'on extrait des statistiques avancées qui sont censées être liées au QI hockey. Et bref, c'est tous des outils objectifs qu'on essayait de voir lequel ou lesquels de la combinaison de ces tests-là permettait le mieux de représenter l'évaluation des entraîneurs du QI hockey sur glace.
Et vous en êtes arrivé à quelle conclusion?
On est arrivé à la conclusion que il y a aucun test hors glace qui dépasse ce que les dépisteurs sont déjà capables de faire. Des dépisteurs qui regardent les joueurs jouer à toutes les semaines, par exemple des dépisteurs de la LHJMQ qui vont voir des joueurs midget 3A, ils sont déjà capables. de déceler à peu près les meilleurs joueurs qui auront le meilleur QI hockey. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est capable d'améliorer leurs prédictions en incluant une couple de mesures issues de cette batterie test-là. C'est-à-dire qu'on était sur les 5 tests que je vous ai listés, mais j'ai fait ça vite, là, mais on était capable d'extraire 72 potentiels prédicteurs. Puis de ceux-là, là, par exemple, le nombre de passes reçues lors des parties à effectif réduit était un contributeur significatif. Le nombre de fixations oculaires pendant la tâche d'occlusion temporelle, là, celle avec les séquences vidéo, était un autre prédicteur intéressant. Pis sinon, ça, c'était contraire à l'hypothèse. On était vraiment contents de cette découverte-là. Un test qui s'appelle Odd One Out, donc qui est un test neuropsy, qui est complètement décontextualisé du hockey, là. Donc c'est pas des bâtons ou des rondelles qui sont à l'écran, c'est vraiment des formes, là, des triangles, des cercles et autres. Puis la tâche de l'athlète, en fait, on lui présente 9 stimuli, puis c'est de trouver lequel qui est bizarre. Bon, au début c'est facile, il y en a 8 rouges, 1 bleu. Fait que tu prends le bleu. Mais plus t'es bon, plus ça devient difficile parce que les relations entre les stimuli deviennent de plus en plus subtiles. Par exemple, en termes d'orientation, de couleur, de nombre, je vous épargne les détails. Fait que c'est ça. Le odd one out, le nombre de fixations oculaires, le nombre de passes reçues. Il y avait aussi une mesure issue de la réalité virtuelle. Tout ça mis ensemble, là, on arrivait à prédire là, à peu près 25% de variance de plus que ce que les dépisteurs étaient déjà capables de faire.
Et est-ce que ça donnait des résultats étonnants? Par exemple, un joueur qui avait été évalué, puis je vais inventer une échelle, là. Disons que son intelligence hockey, vous l'aviez évalué dans les premiers tests à 7, puis là, vous lui faites passer des tests supplémentaires, les tests dont vous venez de nous parler, puis ça monte à 9 ou au contraire, ça descend à 5. Est-ce que des situations comme celles-là sont arrivées?
Non, parce que en vérité, ce qu'on essayait de faire, c'était de prédire ce que les entraîneurs évaluaient eux-mêmes. Fait que là, l'idée c'est de voir est-ce que les dépisteurs accordent un score similaire aux entraîneurs, puis on se rendait compte que dans la plupart des cas, oui. Puis en fait, oui, oui et non. J'ai répondu non, là, mais j'ai pas regardé le fin détail de chaque joueur. Là, c'est quand on a un échantillon comme ça, on s'intéresse plus aux conclusions groupales. Mais ce qu'on voit, c'est que sur l'ensemble de l'échantillon, pour à peu près un joueur sur 4, on avait une meilleure prédiction de son QI hockey réel, donc de l'évaluation de ses propres entraîneurs, si on se servait de ces tests-là.
Est-ce que c'est long faire ces tests-là pour un joueur, une joueuse?
Oui, ben si je fais passer la batterie au complet, ça me prend à peu près 5 heures.
OK.
Par contre, là, moi, je travaille avec les Remparts, par exemple, depuis 2018, puis on est présentement dans la phase d'entrevue, justement, en prévision du repêchage, puis on choisit parmi cette batterie de test-là les plus prometteurs, puis on fait passer là, environ une demi-heure, une sous-batterie, si vous voulez, là, donc dans l'occlusion temporelle, puis l'année dernière, on avait inclus aussi le odd one out. Fait qu'on fait ce qu'on peut avec les ressources qui sont disponibles, les ressources temporelles qui sont disponibles.
Et est-ce que vous pensez que ça a beaucoup aidé les Remparts de Québec?
La seule chose que je peux dire, c'est que moi j'ai jamais vu jouer les joueurs au hockey. Je leur ai juste fait passer une batterie de test pendant une demi-heure, mais ce que je peux dire, c'est que chaque année, les Remparts, je leur fournis un classement en fonction de leur résultat à la batterie de test. Puis je leur dis, les chances que ce joueur-là ait un bon QI hockey est une belle prédiction, une belle performance dans 3 ans, basée sur d'autres modèles là, de d'autres études qu'on a fait. Puis je sais que les Remparts s'en servent là, comme un tiebreaker là, mm-hmm. en cas de en fin de repêchage, surtout là, quand ils sont pas certains entre deux joueurs. Oui, vas-y.
Non, ils vont se fier à ces tests-là. Et vous leur dites quoi?
Moi, je leur dis toujours à chaque année. Faites votre job. C'est-à-dire que dans les deux premières rondes, surtout, là, tu sais, moi, je les ai pas vus jouer au hockey, ces joueurs-là, là. Fait que ces modèles prédictifs-là, dans les deux premières rondes, là, je sais pas si le gars il patine vite, je sais pas s'il y a une bonne shot. Fiez-vous à ce que vous avez observé toute l'année. Puis, plus tard au repêchage, si vous avez des hésitations, ben là, vous pouvez aller consulter ce classement-là en fonction des mesures oculaires qu'on a ramassées là, sur le test d'occlusion temporelle.
C'est vraiment intéressant parce qu'on sait comment le sport a évolué. Hein? Daniel Fortin-Guichard, au cours des 15, 20, 30 dernières années, les équipements, la nutrition, la psychologie du sport, ça n'a aucun rapport avec ce que c'était dans les années 70. Et là, vous apportez un nouvel élément. Est-ce que vous pensez que cet élément-là va être adopté par plus d'équipes de haut niveau? Là, vous avez une équipe de la Ligue junior maritime Québec. Est-ce que vous croyez qu'un jour, des équipes de la Ligue nationale pourrait être intéressé par ce que vous proposez?
Oui, en fait, j'ai déjà eu des approches là, de la part de différentes équipes pour travailler pour eux comme sports scientists, là, scientifiques mm-hmm. du sport. Par contre, souvent, quand on travaille avec des organisations professionnelles de très haut niveau comme ça, ben il y a une chasse gardée sur le savoir, c'est-à-dire qu'il empêche les scientifiques de publier. Puis je comprends tout à fait pourquoi, mais moi, c'était quelque chose qui était très précieux pour moi de continuer.